Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. La démocratie a une fois encore triomphé chez nos voisins du Ghana. Le Ghana a connu hier dimanche 8 décembre une nouvelle alternance pacifique, la quatrième depuis l'an 2000. Et pour s'assurer que tout se passerait pacifiquement, le candidat du pouvoir a reconnu sa défaite et a appelé le vainqueur pour le féliciter. Qu'est-ce qui explique cette victoire de l'opposant John Dramani Mahama et pourquoi une telle stabilité politique depuis 25 ans sans troisième mandat et sans coup d'État? Je poserai ces questions à mes confrères journalistes présents en studio avec moi. Nous aborderons d'autres sujets liés à l'actualité de notre pays et d'ailleurs dans cette émission Club de la Presse de ce lundi 9 décembre 2024. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitor Guetomega assure la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Jérôme Akucha. Je suis Pascal Lossou au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekor, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Et quand on parle alors de confrères, déjà pour lundi, Jacques Dakouti est là. Jacques, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. J'espère que les uns et les autres se portent très bien. Et nous sommes presque à la fin de l'année. Ma prière est que Dieu protège tout un chacun d'entre nous, afin que nous puissions traverser l'année 2024 dans la paix, pour entrer dans l'année 2025 également dans cette même paix, et que nous soyons en vie, et que nous puissions nous retrouver en 2025 sains et saufs, et inviter les uns les autres, une fois encore, la prudence. Elles sont prudentes lorsque nous sortons de nos domiciles, lorsque nous allons au boulot, au marché, sont toujours vigilants. Restons attachés à ce que nous sommes en train de faire et ceux qui sont également en train de nous écouter, qui sont sur les lits des hôpitaux. Je leur souhaite une prompte guérison. Certainement, certains sont actuellement dans leurs ateliers, certains sont au bord de leur véhicule, au bureau. À chacun, à chacune, bonjour. Et Pascal, je voulais pour cette occasion pour remercier nos concitoyens et concitoyennes qui ont entendu notre cri de cœur la semaine passée concernant les non-voyants au niveau de Didjolé, tout précisément à côté de la maison du capitaine Adebayor. Finalement, nos concitoyens et concitoyennes ont compris et finalement, le problème est résolu. Aujourd'hui, lorsque les non-voyants sont arrêtés à ce niveau, il y a des gens quand même qui viennent les aider à traverser la route. Je voudrais sincèrement dire un grand merci à tous ces concitoyens, à toutes ces concitoyennes qui ont écouté notre cri de cœur et qui sont en train de se manifester leur amour à l'égard effectivement de ces non-voyants.
Jacques, quand tu parlais du capitaine Adebayor, c'est vrai qu'on aura l'impression que nous sommes dans l'armée, mais signalons quand même que, signalons que nous sommes plutôt sur le terrain de football. Vous voulez parler alors du capitaine des Éperviers du Togo, ancien capitaine bien sûr.
D'accord, la précision est vraiment utile.
Effectivement. Alors, Gosson Ketomania, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Nous rendons grâce à Dieu. Comme Jacques vient de le dire, le vœu de tout un chacun est que nous franchissions, nous rentrions dans la nouvelle année en bonne santé. Malheureusement, il y a certains acteurs qui ne participent pas à la réalisation de ce vœu. Samedi et ce matin, j'ai eu affaire à deux situations. La première est fort heureuse. La seconde est très dommageable.
Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé?
La première, je viens du tribunal, je vais encore y retourner pour répondre à une convocation. Et comme on en avait parlé il y a quelques temps au sujet de parking pour moto, figurez-vous que je sais pas si c'est aujourd'hui, mais tout ce qui est sur le ticket que j'ai pris, sur lequel était marqué 200 francs, ils ont rectifié en mettant 100 francs pour dire que le ticket de parking pour moto, désormais, autour du tribunal, ce n'est plus à 200, c'est à 100 francs. Si les autorités ont pu nous entendre et accéder à notre demande, chapeau. Malheureusement, la seconde situation, c'est la privation de liberté de deux citoyens, pères de famille, qui utilisent l'application Yango. Depuis mercredi, ils ont été arrêtés et conduits au SCRIC. Le vendredi, on les a amenés à la brigade anti-gang. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, ils y sont toujours. Leur crime, avoir utilisé l'application Yango. Parce que quoi? Le mercredi, c'est un militaire ou un gendarme, je ne sais pas, qui a appelé pour solliciter son service. Le monsieur se pointe avec le véhicule. Et quand il rentre dans le véhicule, il dit direction le SCRIC. Comme ça, le père de famille n'est plus rentré à la maison. On l'a gardé mercredi à jeudi, jeudi à vendredi. Et c'est le vendredi qu'on l'a amené aux anti-gangs. Nous, nous revenions du sport le samedi après-midi quand nous avions appris l'information. Donc, c'était tout sale qu'on s'est rendu à l'anti-gang. Sur ce plan, je veux préciser que les agents de là-bas ont été très polis. Après avoir pris nos coordonnées, ils ont extirpé celui que nous voulions rencontrer. Et c'est devant l'agent que nous l'avons interrogé. Il nous a raconté que c'est comme ça. On l'a contacté et il a gardé. Pour avoir échangé avec un responsable du ministère de la Sécurité, il est ressorti que quoi? Normalement, dans le communiqué qui a été pondu le 17 octobre, c'est à l'opérateur Yango que les autorités intimaient l'ordre de cesser ses activités.
Tout à fait.
Les chauffeurs qui ont leur véhicule personnel ont juste eu à utiliser, ils utilisent l'application Yango. Donc, pour faire leur travail et subvenir aux besoins de leur famille. Mais au nom de quoi, le 24 octobre, le Premier ministre, puisque le ministère des Transports est rattaché à la primature, prend une note pour demander à son collaborateur de la sécurité de tout faire pour faire appliquer la mesure relative au communiqué. En précisant dans le communiqué que l'opérateur Yango. Donc, le lendemain, soit transmis a été émis, sur lequel vous ne lirez pas que les chauffeurs ou les clients, les passagers, devraient être ciblés. C'est comme ça, ils appellent le chauffeur, vous rentrez et ils vous conduisent au SCRIC et on vous garde. Comme si vous aviez commis un crime, Pascal. Je n'ai jamais rencontré l'homme, puisqu'il y a le second est dans la cellule, mais je n'ai pas besoin que ce chauffeur soit mon ami pour que je sois outré par cette situation. Que c'est quoi le crime? C'est vrai, nous apprenons aussi que l'opérateur Yango lui-même aurait été interpellé. Si c'est ainsi, qu'on fasse ce qu'il faut pour qu'on bloque l'application. Puisque si on doit arrêter les chauffeurs, donc on devrait aussi arrêter les clients qui les appellent. Puis c'est les clients qui utilisent l'application pour contacter les chauffeurs.
C'est tout à fait.
Au nom de quoi, pour ça là, on va encore priver les gens de liberté dans nos chères patries. Ce n'est pas bien. Tout le week-end, je l'ai mal passé parce que je me dis, et si ça arrivait à un confrère, qu'est-ce qui va se passer? Nous profitons de l'occasion pour que toutes les mesures soient prises afin que cet état de choses ne se répète plus et qu'on élargisse les citoyens.
D'accord. Merci beaucoup, Gosson, pour nous avoir relaté alors cette situation. Et Didier Assogba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour à mes aînés. Et je voudrais juste partager la peine de Godson et de tous les autres Togolais, des familles qui vivent des situations pareilles. Vous savez, des fois, vous sentez malheureux devant certaines situations où vous posez toutes les questions et vous n'avez vraiment pas les réponses qu'il fallait. Alors, cette situation de Yango, ma foi, devrait interpeller plus d'un et devrait même faire réfléchir beaucoup de personnes. Pourquoi est-ce que un opérateur comme ça, qui débarque en Afrique, a autant de succès au point où on décide de l'interdire, de le suspendre? Voilà. Pourquoi? C'est la question, je pense qu'on ne pose pas vraiment les bonnes questions. Parce que si nous posions les bonnes questions, on avait déjà d'autres opérateurs pareils sur le territoire. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre vient et a autant de succès au point d'inquiéter les gens et qui ont, voilà, dans les lobbying, ont pu avoir une mesure d'interdiction sans autre forme de mesure? Pourquoi est-ce que autant de jeunes Togolais aujourd'hui se débrouillent pour trouver quelqu'un qui peut lui acheter un véhicule pour se donner plutôt dans le VTC au lieu de, voilà, je ne sais pas. C'est la mesure, c'est la situation du pays, c'est la précarité dans laquelle nous vivons, les jeunes vivent et il n'y a pas de lendemain, les gens se posent beaucoup de questions et donc le premier moyen et les premières possibilités qui s'offrent, c'est des possibilités comme ça. Et vous avez tellement de jeunes Togolais, moi j'en connais tellement, qui sont dans ces histoires de VTC aujourd'hui. La plupart, j'en connais plein, des amis, des gens, la licence, la plupart, ils ont fait les études. Mais où est l'emploi? Mais la plupart n'ont eu leur salut que dans cette histoire. Bon, ok, aujourd'hui, est-ce qu'on a fait une évaluation sur le terrain? En dehors de ce qu'on dit, que Yango n'a pas les agréments. Voilà, les agréments. Sinon, si c'est constitution, je pense que il paraît que l'opérateur s'est constitué en société.
Tout à fait, c'est les agréments.
Voilà, société togolaise et a même les cadres d'opérateurs et tout ça économique et qu'il restait que les agréments. Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver une mesure pour accompagner ces jeunes-là à avoir les agréments nécessaires dans le domaine du transport pour que le nombre d'emplois qu'ils ont déjà créés sur le territoire soit sauvegardé pour le bien-être des familles dont les patrons ou dont les chefs sont en train de travailler dans cette histoire de VTC. La question que moi je me pose, nous sommes là en fin d'année, si, je ne sais pas, on peut continuer à mûrir les réflexions, mais au lieu d'arrêter simplement les gens et de les foutre en prison pour avoir trouvé un moyen de travailler et de gagner pour manger et nourrir leur famille.
Honnêtement
honnêtement, naturellement.
Le chauffeur, il est honnête.
Donc, il faut simplement qu'on clarifie vraiment cette situation. S'il y a des invitations à lancer aux responsables de cet opérateur, qu'on leur lance les invitations, qu'ils viennent remplir les formalités pour les agréments à avoir et pour que, justement, la concurrence puisse être de mise sur le territoire, parce que j'ai également l'impression que nous n'avons pas la culture de la concurrence.
On l'a arrêté.
Oui, mais il faut qu'on l'accompagne. Au lieu de l'arrêter, il faut qu'on l'accompagne. Pour qu'on ait également de la concurrence sur le terrain, pour que ceux qui sont là, qui pratiquent peut-être des prix élevés, puissent naturellement faire face à la concurrence, naturellement, et que le Togolais puisse avoir le choix de pouvoir choisir, voilà, entre, si vous le permettez,
plusieurs opérateurs.
Oui, je pense qu'il faut qu'on commence par développer cette culture de concurrence également. Ça amènera les sociétés à pratiquer les prix qui sont à la portée de la bourse du Togolais, plutôt que de vouloir protéger des intérêts des uns et des autres et d'arrêter quelqu'un de lui interdire de fonctionner.
D'accord. Jacques, est-ce que ce n'est pas aussi vrai que au lieu de suspendre même les activités de Yango, on aurait dû plutôt alors accompagner la société à s'installer légalement au Togo?
C'est vrai, Pascal. Cette semaine, j'ai lu que, également au Bénin, les activités de Yangon ont été suspendues, faute d'agrément. Donc, il faut quand même inviter cette société à avoir des agréments avant de pouvoir commencer par travailler. Parce que ça, ça va les éviter tout ce que nous sommes en train de voir actuellement. Godson disait tout à l'heure que le responsable a été arrêté. Bon, moi je crois que si, par exemple, le responsable avait l'agrément, je ne pense pas qu'il allait vivre cette salle qu'il est en train de vivre actuellement. Donc, je crois qu'il faudrait également que toutes les sociétés, nous savons aujourd'hui qu'avant de pouvoir t'installer dans un pays, il faut toujours avoir un agrément. Bon, est-ce que Yango a demandé l'agrément et que l'agrément ne vient pas, c'est pourquoi ils se sont lancés. Et quand c'est comme ça, vous aurez également des problèmes à pouvoir travailler dans le pays, parce que sans agrément, c'est comme un véhicule que vous prenez, Pascal. C'est vrai que vous savez conduire, mais lorsque vous n'avez pas le permis, lorsqu'un policier vous arrête, vous aurez des soucis. Donc je crois que il faudrait que Yango fasse tout pour obtenir l'agrément, parce que quand on les avait suspendus au Togo, selon le communiqué du ministre des Transports, c'était dit qu'il faut que Yango puisse se conformer.
Tout à fait.
C'est ce qui avait été dit. Donc, si on demande à Yango de se conformer, pourquoi encore on arrête le responsable? Donc, je crois qu'il faudrait aujourd'hui que le gouvernement, comme Didier et Godson l'ont dit, ça permet à ce que nos jeunes puissent avoir quand même de l'emploi. Il faudrait que le gouvernement et Yango puissent trouver vraiment un terrain d'entente. Ça, ce n'est pas un problème. Si on me demande l'agrément, je n'ai pas. Et c'est que, en allant par exemple à ce service, je peux obtenir l'agrément, que je puisse le faire et que ceux qui vont effectivement rentrer dans cette société et puissent entrer effectivement dans la légalité. Et lorsqu'ils vont travailler, ils n'auront pas de soucis. Pour le chauffeur qu'on a arrêté, je crois qu'il faudrait quand même que le ministre de la Sécurité puisse voir également cette situation, parce que lui, il est en train de conduire un véhicule. On l'a appelé de pouvoir aller travailler et vous arrêtez la personne également comme ça. Je crois qu'il y a un problème. Si c'est vraiment, si seulement si le monsieur est chauffeur de Yango et on l'a arrêté à cause de ça, mais il y a un problème. Donc je crois qu'il faudrait que le ministre...
Le véhicule n'appartient pas à Yango.
C'est son véhicule.
Il m'est arrivé, moi aussi,
il utilisait juste alors l'application.
Je ne vais pas le cacher. Il m'est arrivé de m'inscrire à Gozem. J'ai mon nom dans leur répertoire parce que je voulais joindre les deux bouts d'une certaine manière avec mon propre véhicule.
Voilà.
Donc c'est de cette même manière que on m'aurait appelé et on m'aurait gardé parce que l'opérateur Gozem n'aurait pas d'agrément. Si on fait la comparaison, quand un fondateur ouvre une école sans agrément, et que le ministre de l'Éducation veut réagir, mais ce ne sont ni les élèves, ni les parents, encore moins les professeurs, qu'on s'en va arrêter. C'est le fondateur qui est ciblé. C'est en ça que je me dis, cette mesure prise à l'endroit des chauffeurs, c'est une hérésie. Non, je veux aussi préciser que dans le communiqué, on a argué comme quoi c'est pour des mesures sécuritaires. On ne va pas me faire croire que les passagers qui prennent les autres les transports par des opérateurs ont plus de sécurité que Yango. On ne va quand même pas utiliser, brandir la mesure sécuritaire à tout va pour poser n'importe quel acte. Quand vous relisez le communiqué, vous verrez que il y a un peu trop de zèle à travers.
Non, je crois que, Pascal, on l'a si bien dit, si Yango a déjà déposé les documents,
pour obtenir l'agrément,
donc il faut que l'État également joue sa partition. Et comme on l'a dit, il faudrait que le ministre de la Sécurité clarifie la situation. Quelqu'un ne peut pas utiliser, par exemple, l'application. L'application, pour qu'on puisse effectivement arrêter l'application, on fait rentrer en jeu le ministère des Postes et Télécommunications et l'ARCEP, et le ministère de la Sécurité pour arrêter l'appli. S'ils ne veulent pas que les gens utilisent l'application Yango, c'est très simple. Parce que l'ARCEP est là. On peut demander à l'ARCEP de pouvoir appliquer la loi et arrêter l'application pour que l'application ne fonctionne plus. Mais qu'on ait arrêté quelqu'un parce que quelqu'un l'a appelé, est venu le chercher et on l'arrête, c'est là même qu'on crée l'insécurité. Parce que celui qu'on a arrêté là, selon ce que l'autre a dit tout à l'heure, c'est un corabillé qui l'a arrêté. Supposons, quand on l'a arrêté, il partait avec lui, il fait une crise cardiaque, il meurt dans le véhicule, qui est responsable? Donc c'est ça. Donc vous voyez, il y a des choses quand même il faut éviter.
D'accord.
Si donc je crois que faisons
si,
tout
si
pour
tu
que...
permets même oh, si oui, c'est ce soit l'utilisation, oui, l'utilisation même des applications. Nous sommes dans un monde numérique aujourd'hui. Il n'y a pas que Yango que des gens utilisent. Il y a plein d'applications aujourd'hui qui ne sont bon, dont on n'a même pas besoin d'autorisation.
Et il n'y a même pas de limite.
Il n'y a pas de limite que des gens utilisent aujourd'hui pour plusieurs autres services, pour plusieurs autres besoins de tous les jours, parce que nous sommes dans un monde numérique. Si c'est le nom Yango qui cause problème, moi je ne vois pas où est le problème en réalité de ce que quelqu'un a utilisé Yango ou que un client un togolais qui veut se déplacer a utilisé Yango pour contacter un chauffeur pour voilà pour faire ses courses. Il y a plein d'applications, il y a plein de possibilités aujourd'hui numériques que nous utilisons pour régler des problèmes de tous les jours dans beaucoup d'autres domaines, dans beaucoup d'autres secteurs, sans avoir besoin forcément d'une autorisation quelqu'un quelque part. Si c'est l'application qui est le problème, moi je ne pense pas que cette décision ou la façon dont on gère le problème est la meilleure des façons. Mais si c'est d'amener Yango à avoir les agréments, nous sommes d'accord qu'il faut respecter les dispositions. Et donc on a déjà invité les responsables de cette structure-là et il faut justement les accompagner dans ce sens-là. Bon, si je me fie à ce que Gosson nous dit, si on a invité quelqu'un pour venir faire la demande d'agrément et que derrière on arrête la personne, vous n'allez quand même pas me dire que c'est depuis son lieu de détention qu'il va faire les démarches pour avoir les agréments.
D'accord. Alors, on va quitter le sujet. On s'intéresse à un autre sujet. On sait que la Foire internationale de Lomé a fermé ses portes depuis hier. Il est dimanche 8 décembre. Et il y a déjà le bilan. Hein, le bilan qui s'établit. Et ça a été rapidement... Enfin, on parle aujourd'hui alors des nombres de visiteurs. On parle de 704 000 visiteurs et aussi des exposants. Des exposants, on parle alors de 1300. Alors, quand on prend ce bilan, d'aucuns parlent même d'ailleurs d'un bilan record. Et Gosson, est-ce que vous avez aussi l'impression que c'est un bilan record par rapport même d'ailleurs à toute l'affluence qu'on a eue autour de cette foire?
En prenant en compte les tranches d'âge, j'aurais aimé que le bilan ou les statistiques se penchent sur cet aspect plutôt. Parce que si sur les 700 000, ce sont 300 000 ou 400 000 jeunes du primaire et du secondaire qui ont visité la foire, je ne vois pas en quoi ce bilan va satisfaire non pas les organisateurs, mais les exposants. Aujourd'hui, ce qui, je l'ai toujours maintenu, j'aimerais qu'on me parle de bilan satisfaisant en tendant le micro aux exposants. Parce que sans les exposants, il n'y a pas de foire. Mais il est triste de constater que les meilleurs vendeurs à la foire, je n'y suis pas allé, mais ce sont les retours que j'ai eus, ce sont les vendeurs de boissons, de colicots, de brochettes, de saucisses et autres. Ben, autant alors organiser une foire pour manger plutôt que d'utiliser la foire d'exposition là pour plutôt faire de bonnes affaires, alors que c'est pas, la foire n'est pas dédiée à la vente de brochettes et autres. Mais c'est pour d'autres articles. Voilà mon avis à moi.
Mais j'étais là à la clôture hier, j'ai circulé dans certains pavillons, j'ai vu quand même des sociétés qui vendaient aussi.
Vous avez vu ils vous ont monté la caisse.
Pas la caisse, pas la caisse comme tu le dis, mais ce qui est sûr, il y a des gens quand même qui faisaient des recettes. Alors, c'est vrai que le vendredi dernier, il y a déjà le journal à l'antenne qui titrait sur effectivement cette fois, et le journal écrit exhibition en tenue indécente, dépravation sur le site alors de la foi, sauver la jeunesse du péril avant qu'il ne soit trop tard. C'est bien ce que le journal écrivait. Oui, mais c'est vrai, quand on prend cette foi, ou la foi même en général, des jeunes prennent toujours cela comme étant aussi un cadre de loisir, où on vient dans des tenues bien évidemment indécentes, et pour des activités ou pour des loisirs, alors ça, on ne va pas leur refuser quand même cela.
Je crois que un sondage réalisé et dont les résultats ont été communiqués par la direction du CTF confirme justement ce que tu dis, que environ 80% des visiteurs pensent que la foire est une occasion de loisir, un lieu de loisir et d'achat. Donc, à partir de ce moment-là, comme Gosson le dit, malheureusement, il va avoir, nous sommes un pays à population très très jeune, extrêmement jeune. Donc, naturellement, je ne sais pas combien de fois Gosson est allé à la foire cette année, mais s'il n'est pas allé, donc ça veut dire que les gens de la tranche de son âge là sont moins donc dans les statistiques qui a été communiqué, dans les statistiques qui ont été communiquées. Donc à partir de ce moment là, on va être d'accord que la foire est visitée majoritairement par les jeunes, extrêmement jeunes, qui naturellement ont leur façon de voir des choses. Oui, il y a le loisir, vous avez vu les concerts plein à craquer, les jeunes, ils veulent aller voir les gens qui chantent, les artistes, ils veulent aller donc se distraire. Voilà, donc c'est, on ne va pas non plus refuser ça, parce que c'est quand même eux qui deviendront des vieux demain pour aller acheter. Mais malheureusement, Gosson est resté à la maison, donc on ne sait pas qui va acheter. Donc c'est les jeunes qui vont à la foire, qui circulent de pavillon à pavillon, de stand à stand, pour justement voir donc les vendeurs de colicots, de brochettes dont il parle. Mais depuis la première fois que moi je suis allé sur le site de la foire, à l'époque ça se faisait chaque 2 ans, je pense que c'est des gens qui ont généralement le vent en poupe, hein. C'est eux là, ils sont dans, en plein air, on ne ferme pas leur stand, eux ils sont là, et donc c'est eux, ils font généralement plus d'affaires que ceux qui sont dans les pavillons, dans les galeries où on ferme, on les chasse. Mais à 21h par exemple, où on a déjà fermé les pavillons, les gens sont encore en train de vendre les saucisses, les brochettes ici et là, et également les vendeurs de boissons, la brasserie et tout ça. Donc généralement dans une fête foraine, il y a généralement les vendeurs de nourriture qui s'en sortent toujours par rapport à ceux qui vendaient les voitures. N'allez pas me dire que ils ont vendu ne serait-ce que 5 voitures à la fois. Donc à partir de ce moment-là, je pense que les statistiques démontrent la nature même de notre foire aujourd'hui. Et si j'avais été dans l'équipe de la direction du CTF, on allait rapidement jouer sur ces statistiques-là et voir comment on réoriente ou on donne cette dimension-là à la foire où c'est déjà une fois pour les jeunes et puis une fois où les gens considèrent que c'est un lieu où on peut faire d'abord les loisirs et puis où on peut acheter également. Contrairement à l'idée d'exposition qui est derrière naturellement chaque fois, les gens pensent qu'on peut acheter à la foire et on peut se divertir. Donc si nous, on pourra réorienter notre foire dans ce sens-là, je pense que les années à venir, on pourra peut-être avoir plus de chiffres que ça. Qu'on est aujourd'hui.
D'accord. Jacques, quand on voit ces chiffres, on analyse bien sûr ces chiffres, on pourra dire que c'est en quelque sorte un bilan satisfaisant.
Bon, vous savez, Pascal, le vrai problème de la jeunesse ici au Togo, c'est qu'on n'a pas des centres de loisirs. Le palais des congrès est fermé. Dites-moi, il n'y a plus un lieu où les jeunes peuvent aller se défouler, comme, excusez-moi le terme. Il n'y en a pas. Donc, le seul lieu, c'est Togo 2000. Et qui, pas deux fois, rime avec les concerts. Et vous savez, là où il y a les concerts, on invite les artistes. Les jeunes y vont. Donc, permettez à ce que, si on parle de ce nombre élevé, c'est parce qu'il n'y a pas un lieu de loisir pour les jeunes. Où on peut inviter un artiste qui va aller prester et vous êtes assis pour admirer. Donc c'est à la fois. Et vous voulez que les jeunes fassent quoi? Les jeunes vont y aller. Et les perdants, c'est les exposants. Ceux qui sont venus avec leurs marchandises. Qui a acheté, dites-moi? Les gens n'ont pas acheté. Donc c'est les jeunes qui sont allés et vous allez les voir. Moi je ne suis pas allé, mais j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux. La plupart, comme les uns et les autres l'ont dit, c'est les places où il y a le jus, il y a les saucisses, et quoi encore? C'est tout.
Il y a les jouets des enfants. Oui,
ouais, mais c'est bon, les enfants, c'est les parents qui vont acheter.
Que voulez-vous, c'est pas la si vous comprenez.
Donc c'est pour vous dire quelque part,
tout à fait. À 20 millions.
Je serai par exemple ministre de la Culture de ce pays. À travers ce que j'ai vu à cette fois, je vous dis que c'est des opportunités pour créer des choses, pour avoir de l'argent. Ça, je vous dis, Pascal. Hier, je réfléchissais à ça. Et dit, si on me donnait l'opportunité d'avoir un lieu, créer ce genre de choses, je vous dis, les jeunes vont venir. C'est sûr. Et c'est la culture togolaise qu'on va valoriser comme ça. Parce que les jeunes aiment ça. C'est-à-dire, les jeunes, ils aiment un lieu où on invite des artistes. Ils sont assis à côté peut-être du jus, des saucisses. Et bon, les jeunes discutent entre eux. C'est vrai qu'on a parlé de la dépravation. La dépravation, c'est quoi? C'est parce que c'est un lieu où, quand vous allez par exemple à la foire, vous allez voir que la plupart des tranches d'âge sont là-bas. Les vieux, les vieilles, les jeunes, tout le monde est là-bas. Mais si on crée par exemple un espace où on invite par exemple ces jeunes, il y a des encadreurs qui sont là, qui les entourent, je vous dis que nous allons éviter beaucoup de choses. Et ça serait même également ces endroits où on peut leur parler de certaines choses, parce que c'est entre jeunes. Hein, c'est un cadre entre jeunes où on peut les parler. Donc il faut inviter franchement le ministère de la Culture à revoir ces espaces-là. Hein, les espaces verts pour ces jeunes, comme on l'a dit. Le palais des congrès est fermé. Il y a un centre à côté de chez vous, ici, je crois que c'est Olympia, quoi. Hein?
Oui, Canal Olympia.
Canal Olympia. Oui. Mais souvent, quand vous interrogez les artistes vous disent que c'est cher. Hein? Les artistes vous disent que pour avoir accès à la salle, c'est un peu cher. Vous allez, par exemple, au niveau des catholiques, les catholiques ont également un lieu vers le collège Saint-Joseph,
Agora
Senghor. Là-bas également, c'est un autre problème. Après ça, c'est le truc là qui est à côté du grand marché, le cinéma Rex.
Voilà, le grand Rex.
Le grand Rex, donc c'est tout. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, avec cette foi, il faudrait que notre ministère de la Culture réfléchisse à organiser des foires pour les jeunes pendant les vacances, c'est
d'accord,
important.
D'accord. Gossam, quelles sont les leçons à tirer de cette foire? C'est vrai que le bilan n'est pas aussi, pour le moment, on n'a pas encore présenté un grand bilan tel que cela se doit, ou bien le bilan, le rapport en entier. Mais qu'est-ce qu'on peut facilement retenir comme leçon?
Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est de rebondir sur ce que Jacques vient de dire. C'est vrai. Quand vous voyez la foule de jeunes en quête de moyens de distraction, ça devrait interpeller qui de droit. En toute honnêteté, pour revenir à la question de la dépravation que je mets en griffe, ça dépend du côté où l'on se trouve, hein, Pascal. Parce que sans être allé en Europe, vous voyez certains blancs et certaines blanches qui sortent dans la rue, soit en culotte et soutien, et plus rien. Ils ont le sac, ils vont faire leur achat. Mais ce n'est pas de la dépravation chez eux. Ils croisent des gens qui sont décemment en griffe, habillés aussi, et ça ne dérange personne. Donc, je ne sais pas ce qu'on veut mettre dans le terme dépravation. Je me dis, du moment où la personne ne sort pas nue, et même si elle sort nue, il y a des fous qui sortent nus. On ne s'en offusque pas. Donc, c'est à chacun d'apprécier ce...
Mais est-ce que là, ce n'est pas parce que nous avons des valeurs, un certain nombre de valeurs que nous devons respecter, le respect de la pudeur et tout. Donc, c'est pour cela peut-être qu'on écrit cette question. Alors, on parle de dépravation.
Le respect de la pudeur, j'en sais quelque chose. Mais ce n'est pas pour autant que ma fille ou mon fils qui veut, à certains moments, se faire plaisir. Ce n'est pas pour attirer qui que ce soit, ou quoi que ce soit, mais il a envie d'être en contact avec la nature. Du moment que soit je suis à côté, ou alors j'ai confiance en elle, elle reviendra, le monde va continuer. C'est vrai qu'il y a des gens qui font la comparaison comme quoi, quand tu as le téléphone, tu en prends soin parce que tu mets la couverture haute pour que ça ne se gâte pas vite. Mais pourquoi est-ce que tu ne protèges pas ton corps? D'accord. Mais est-ce que protéger le corps résout tout? On en connaît qui protègent le corps des cheveux jusqu'aux orteils. Mais une fois la rue tournée, vous ne pouvez pas imaginer de quoi ils sont capables. Donc, c'est pour vous dire que cette question-là, je mets toujours des réserves.
D'accord, ok. On va quitter le sujet. On s'intéresse à un autre sujet. C'est le sujet alors des sénatoriales. Les sénatoriales qui nous attendent même d'ailleurs déjà le 2 février prochain, bien sûr, c'est en 2025. Et dans ce week-end, même, il y a la CENI qui a lancé même l'appel à candidature. Et quand on prend déjà l'installation du Sénat, qui va en quelque sorte se rajouter à l'Assemblée nationale pour que ça crée enfin cette le Parlement. Alors et finalement on pourra dire que pas à pas nous tendons vers la mise en place même des institutions et ce qui nous amènera alors dans concrètement hein, surtout dans la 5e République.
Bon, on observe, on est dans la transition et qui, naturellement, devrait mettre les choses en place. Donc, les sénatoriales en février, et on va élire 41 sénateurs à élire, donc appel à candidature. Je ne sais pas s'il y a des potentiels sénateurs parmi nous ici, Godson, avec sa barbe, pourrait faire un bon sénateur. mais je ne sais pas s'il pourra être porté candidat par ceux qui naturellement vont élire les gens. Bon, les sénatoriales, oui, on sait déjà que le corps électoral, c'est pas monsieur tout le monde.
Non.
C'est les conseillers municipaux plus les conseillers régionaux. Donc, ils vont élire une quarantaine de personnes. Donc, ça va permettre d'avoir les deux tiers du Parlement. Et d'après les dispositions donc de la Constitution, le tiers restant sera nommé par le président du Conseil des ministres. Donc, on attendra de voir comment est-ce que ça va se faire. Après les élections, ça va avoir lieu parce que ça ne concerne pas monsieur tout le monde. Non. On sait déjà ceux qui vont élire les gens. On sait déjà qui peuvent élire. Donc, on attend juste la liste des candidats pour savoir qui et qui seront sénateurs. Maintenant, après la mise en place du Sénat, on va voir s'il n'y aura pas des couacs ou des difficultés. Parce que quand on a actuellement un président de la République, mais on dit que le tiers restant devrait être nommé par le président du Conseil des ministres. Et alors que le président du Conseil des ministres devait prendre fonction après l'élection donc du président de la République. Le président de la République lui-même devrait être élu par le Sénat et l'Assemblée nationale réunie à Congrès. Donc, enfin, je me pose juste des questions. Est-ce que juste l'élection du président, enfin, l'élection des sénateurs en février va nous permettre d'avoir facilement, d'aller facilement à la mise en place du Sénat avec cette histoire de nomination du tiers. Mais nous sommes dans la République, nous nous posons des questions de novices, peut-être qu'on aura des réponses prochainement dans d'autres sorties officielles pour nous éclaircir sur ce point. Est-ce que les tests disent que le président de la République actuel va nommer les tiers? C'était ce qui était prévu. Mais quand on a modifié pour dire que c'est le président du Conseil des ministres qui va les nommer maintenant, qu'est-ce qu'on va pratiquer pour avoir un Sénat opérationnel qui se joint à l'Assemblée nationale pour élire le président de la République, président de la République qui va acter la nomination du président du Conseil des ministres? Donc, je réfléchis juste à nos dispositions pour voir quelles seront les possibilités qu'on aura ou les difficultés éventuelles qui pourraient y avoir. Mais quant à l'élection des sénateurs, bon, oui, on sait déjà que ça va passer comme une lettre à la poste. En février, il n'y aura pas de difficultés. Ou je ne sais pas, s'il va avoir des difficultés, peut-être c'est toi que tu n'auras pas d'électorat.
Oui, mais Jacques, est-ce que déjà avec ce processus, cette disposition, est-ce qu'il n'y a pas un flou qui se profile à l'horizon?
Justement, moi j'ai plutôt peur de la gestion après les installations. Sûrement qu'il y aura des couacs au niveau effectivement de la gestion. quand on prend par exemple le président de l'Assemblée nationale, lui, il n'y aura pas de problème. On connaît un peu son statut, les prérogatives de l'Assemblée nationale. On prend également celui du Sénat et comparativement à ceux, par exemple, au gouverneur. Et quand vous prenez par exemple le gouverneur de Lomé, qui a un statut particulier par rapport
aux autres gouverneurs,
et la région de la Centrale, qui n'a pas encore son gouverneur. Après, les sénateurs qui vont prendre voter des lois qui seront transmises à l'Assemblée nationale, l'exécution de la tâche entre le président de la République et le président du Conseil et le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale et les sénateurs et les députés et les maires, vous voyez que ça fait quand même beaucoup. Donc il faudrait que le gouvernement actuel commence déjà par sensibiliser la population par rapport à cette nouvelle donne. Parce que beaucoup de Togolais ne comprennent pas. C'est quoi le rôle d'un sénateur? C'est quoi le rôle d'un gouverneur?
Est-ce que ce n'est pas parce que c'est du nouveau pour les Togolais?
Oui, mais on a droit de savoir. Parce que c'est à eux de nous informer. Parce que les canaux sont là. Les radios, les télévisions sont là pour que l'État exploite ces canaux-là pour pouvoir informer les populations que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, quand je veux par exemple établir l'acte de naissance, ou soit l'acte de naissance, je laisse ça. Je prends par exemple, si je veux organiser une manifestation, par exemple un concert, je ne sais pas si vous comprenez.
Oui.
Si je veux, par exemple, mettre... comment exposer par exemple un badge au niveau peut-être de Canal FM ici, je crois que vous êtes sur la juridiction du Golfe 4 ici.
Oui,
donc
nous sommes à Nukopé.
À Nukopé, voilà. Je suis obligé, si je vais par exemple mettre la même bâche au niveau de disons à Tikoumé, je suis obligé d'aller encore prendre l'autorisation au niveau de la mairie au niveau de Aboka. Vous voyez, donc, c'est des choses qu'il faut quand même revoir. La gestion, par exemple, quand on parle des gouverneurs, quand on parle, par exemple, des maires et tout ça, si je veux, par exemple, obtenir une autorisation pour mettre une bâche au niveau de Canal FM, si c'est le gouverneur qui peut me signer, par exemple, l'autorisation de mettre cette bâche au niveau de Canal FM, je n'ai plus besoin d'aller encore vers les mairies pour obtenir les mêmes autorisations avant de pouvoir mettre ces bâches-là un peu partout.
Tout à fait, puisque le gouverneur ou la gouverneure est à la tête alors de tout cela.
Voilà, donc, mais dans la pratique, ça serait difficile, Pascal. Dans la pratique, ça serait vraiment un problème. Parce que les maires vont se dire peut-être qu'il y a une prérogative qui sort de leurs mains et qui va, par exemple, vers les gouverneurs. Les moyens, là, comment on va les gérer? Donc, c'est ça le problème. Donc, je crois que la responsabilité incombe au gouvernement déjà de commencer par sensibiliser les populations, qu'on puisse comprendre effectivement ce que c'est qu'un gouverneur, ce que c'est qu'un sénateur, quel rôle le Sénat va jouer, quel rôle le gouverneur doit jouer. Nous avons des maires, nous avons également des élus locaux. Vous voyez, donc, c'est quelle sera la prérogative de chacun et quelle sera l'issue du fonctionnement de tout ce monde-là. Qu'est-ce que cela peut apporter à notre démocratie? Vous voyez, donc, c'est des choses qu'il faut quand même expliquer aux populations pour qu'ils puissent comprendre. Et puis, l'autre aspect, comme je le disais tout à l'heure, quand vous prenez par le gouverneur de Lomé, il a le gouverneur de Lomé a les statuts au rang de ministre
justement.
Vous voyez. Et les autres qu'est-ce qu'on fait des autres? Et l'autre aspect,
mais puisque aujourd'hui c'est seul Lomé qui a le district du Grand Lomé,
oui,
qu'on connaît.
Pourquoi
les autres villes n'ont pas encore le district?
Pourquoi cette particularité de Lomé? Pourquoi c'est Lomé qu'on choisit, que bon, lui là le rang de ministre et les autres n'en ont pas? Et n'oublie pas également des préfets qui sont là. Donc vous voyez, c'est quand même un truc lourd qu'il faut essayer quand même d'expliquer nos populations pour pouvoir comprendre. Vous savez, Je n'ai rien contre le gouverneur de Lomé, je n'ai rien contre la personne. Mais ce que j'ai dit, nous sommes des hommes, hein, Pascal. Si toi, tu as rendu ministre, alors que c'est le même décret qui nous a nommé.
Et elle peut participer même au conseil des ministres, c'est si, ce que le test dit.
Non, si besoin.
Je si crois besoin, que, justement.
Le test a parlé de si besoin. Donc, si le même décret que nous nommons, si, par exemple, je serais d'accord avec le gouvernement, si un décret exclusivement nommé, par exemple, le gouverneur de c'est Lomé, non ?
Oui, c'est Lomé.
Voilà, c'est du Grand Lomé. Si c'est un décret séparé qu'il a nommé, là, je serais d'accord. Mais c'est le même décret qui a nommé les quatre gouverneurs, autant pour moi, et qu'on dise que le gouverneur de Lomé a un statut particulier et qu'il peut même siéger au Conseil des ministres si besoin. Bon, vous voyez, ça va créer quand même peut-être des jaloux. Ça, il faut qu'on le dise, et c'est normal. Ça va créer quand même des jaloux. Et l'autre aspect, il est dit, je ne sais pas si vous avez lu ce qu'elle va gérer, même l'assainissement et tout ça, là, celle qui s'en occupe.
Tout à fait.
Voilà. Et bon, les autres, là, Anazap et autres, vont devenir quoi? Donc, vous voyez, donc, c'est des aspects sur lesquels il faut que le gouvernement puisse revenir, expliquer ce genre de choses-là au niveau des médias, pour que citoyens lambda que nous sommes, que nous puissions comprendre effectivement le fonctionnement.
D'accord. Alors, nous sommes seulement en transition.
Oui,
nous sommes en transition. On est en train de mettre les choses en place. Lorsque la machine sera bien huilée, vous allez voir. Pourquoi vous inquiétez?
Mais si c'est en transition déjà, si en transition déjà, on n'arrive pas à comprendre.
Voilà, comment?
Mais comment? La question de savoir déjà, quand on va rentrer dans le plein pied, de la chose, comment arriverons-nous à comprendre les choses? C'est ça aussi la question.
J'arrache la question pour y répondre.
Oui.
Je veux croire que le gouvernement a dans sa gibecière assez de laxatifs pour que, en cas d'indigestion de la population, à comprendre le système, conserve le laxatif pour qu'il puisse bien se purger. Oui. Il suffit qu'on ait du laxatif, vous finirez par comprendre.
Oui.
Aujourd'hui, on dit que on est en train de mettre les institutions en place. Qui peut me dire le nom du premier vice-président de l'Assemblée? Or, l'Assemblée est déjà mise en place. Le poste est vacant. Pourtant, c'est une institution. Qu'est-ce qu'on attend pour combler ce vide?
Comment? L'Assemblée, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est Zoueratou Kassa Traoré.
Elle est quoi aujourd'hui?
Elle est aussi gouverneur du Grand Lomé.
Ça ne pose pas de problème.
Bon, en toute façon, c'est comme ça. Oui. C'est comme ça pour le moment. Donc... Non, c'est comme ça.
Il y a un secrétaire général.
Oui. Non, je veux parler des incompatibilités.
À la CENI. Il est aujourd'hui secrétaire général dans un gouvernorat.
Latifou.
Voilà. On va le remplacer. Alors qu'en ce moment, la CENI est en train de prendre des mesures pour aller au sénatorial. Le 2 février. Nous sommes le 9 décembre aujourd'hui. Il nous reste, mathématiquement parlant, moins de 5 mois, puisqu'au soir du 5 mai, toutes les institutions doivent être mises en place. Je ne sais pas si vous me suivez.
Non, mais on vous suit.
Maintenant, personne. Vous pensez que aujourd'hui, les conseillers régionaux n'ont pas de siège, de bureau. Les gouverneurs, il y en a qui ne sont. Il y a un qui n'est pas encore nommé. Il y a d'autres nominations qui vont arriver. C'est les sénateurs. Ils vont arriver. On doit leur trouver où siéger. Et nous avons moins de 5 mois, je le dis encore. Seulement, les citoyens doivent comprendre que impossible n'est pas togolais. Puisque, de par le passé, par deux fois, nous avons reporté les législatives. Le soleil n'a pas cessé de se lever à l'est pour se coucher à l'ouest. Donc, si au soir du 5 mai, les institutions ne sont pas au complet, vous souffrirez qu'on veuille proroger, mais vous ne pourrez rien faire.
Non, la transition
seulement,
continue.
Il se trouve que...
Ouais. Mais la transition devait avoir une fin.
Voilà.
Non, on peut proroger la transition.
Donc, tu vas dans mon sens.
Non, mais...
C'est en ça que même si on proroge, si vous vous énervez, vous ne pourrez rien faire. Mais il y a un fait aussi. La veille du 5 mai, c'est le 4. Normalement, ça devrait acter la fin du mandat de notre
du président
actuel.
Oui.
Or,
c'est le 4, il a prêté,
c'est le 4,
il a prêté
seulement, seulement le 2, 3.
Le
3. Or, il se trouve que, bien, il se trouve que au sein de, de la population togolaise, ce n'est pas nous tous qui voyons d'un bon oeil la République neuve. Ou la République 5, je ne sais pas.
La 5e République.
Voilà.
En gestation.
Mais ceux-là, comment est-ce qu'ils vont consommer tout ça là? Je ne sais pas si eux aussi, ils ont du laxatif à prendre pour bien digérer ou alors pour bien se purger. Ce qui est sûr, on est dans un flou. Personnellement, est-ce que un cahier de 300 pages pourra me suffire pour noter les nouvelles dispositions?
Non, mais rapidement, de toute façon, ce que tu dis, c'est bien. Tout ce que nous disons, c'est bien. Et des fois, nous disons des choses, nous prenons pas d'autres détours. Mais nous avons intérêt à ce que les institutions soient en place et qu'on puisse respecter les dispositions. De toute façon, les promoteurs de la Constitution, nous n'étions pas dedans, nous n'étions pas là quand on a écrit. Ils ont mis que les institutions, les nouvelles institutions prévues devraient être mises en place.
Oui, mais dis-moi plus tard. Moi, ma question, est-ce que tout cela n'est pas lourd pour le Togo actuellement?
Non, non. Puisque les gens qui ont voulu la République, une nouvelle République, qui veulent changer totalement les choses, on a eu les explications, pour n'avoir besoin de tourner en arrière, on dit qu'on a seulement besoin d'un an pour mettre en place toutes les nouvelles institutions de la République. Moi, je me dis qu'on devrait, je pense que, comme on dit chez nous, quand on dit un aveugle veut te jeter la pierre, c'est parce qu'il a déjà le pied sur quelque chose. Donc moi, je fais confiance à ces gens qui ont dit que, pour le respect du chronomètre, du délai qu'ils se sont donné, de ce qu'au plus tard, au soir du 5 mai 2025, on a toutes les institutions de la République en place. Au moins qu'on ait les institutions en place.
Qui vont siéger où?
Bon, il y a même le studio ici. Certains peuvent siéger ici. Donc à partir de ce moment-là,
ça ne va pas servir.
Travaillons. Oui. Bon, c'est une façon de parler. Oui. Travaillons à ce que ou encourageons le gouvernement à ce que les préparatifs ou les tests nécessaires à la mise en place d'institutions puissent être accélérés et que les décisions à prendre puissent être prises de façon assez vite pour que justement on n'arrive pas justement dans l'inquiétude que soulève Gosson parce que après le 3 ou 4 mai 2025 le mandat du président de la République actuelle passe. Donc, il faut justement que on ne prête pas le flanc à des gens. Vous avez vu, des gens parlaient de vide ici et là et tout. Qu'on ne prête pas le flanc à cela. Si on veut changer les choses, on peut le faire même bien avant mai. Pourquoi ne pas faire les choses au plus tard en avril, au plus tard en mars? C'est la République qui gagne.
Merci beaucoup, Dizé. Nous allons
quitter le
Togo. Jacques, permettez.
Non, ce qui est sûr, Pascal. Comme ils le disent.
Oui.
On est au Togo. On est au Togo, c'est-à-dire qu'on peut également prendre...
Mais quand on est au Togo, c'est comme si le Togo, c'est un pays atypique.
Non, pas atypique. C'est-à-dire que, regardez, depuis que l'autre est décédé, à Tabou, le préfet du Golfe, il n'a pas été remplacé. Depuis que le ministre Awate Odabalo est nommé...
Ministre de la décentralisation.
Il n'a pas été remplacé.
Mais non, on l'a dit qu'il était ministre, mais préfet Awate Odabalo, comprenez?
Non, il ne peut pas jouer les deux à la fois. Non, c'est pour vous dire quelque part que c'est la transition sûrement qui peut être prorogée encore. aujourd'hui, quoi qu'on dise, on n'a pas encore de budget. Les députés sont en train d'étudier le budget aujourd'hui.
Mais est-ce qu'on était obligé?
Non,
c'est ça aussi la question.
Non, ce qui est sûr, oui. Pascal, même à 23h59 du 31 décembre, Impossible n'est pas togolais. Pourquoi on adopte ce...
D'accord, ok. Moi, je voudrais quand même qu'on quitte le Togo. On parle alors du Ghana. Le Ghana, tous les regards étaient tournés sur le Ghana dans ce week-end parce qu'il y avait les élections générales au niveau alors du Ghana. Et tel que je le disais même d'ailleurs dans mon mot introductif, Gossen, finalement, quand on a suivi ces élections, on a compris que la démocratie a une fois encore triomphé chez nos voisins du Ghana.
Moi, je doute des résultats proclamés au Ghana.
Comment ça?
Je doute en ce sens que quand tu vois la superficie de ce pays comparée à la nôtre et le temps, la célérité
on
dans la proclamation
des...
Un pays de
19 millions.
Voilà, plus du double du Togo. La célérité dans laquelle les résultats ont été proclamés et le taux de transparence. Je me dis, mais si c'était les États-Unis, on dira que c'est deux mondes. Mais le Ghana et le Togo, normalement, il n'y avait pas de frontière entre nos deux pays. C'est quoi la baraka qui leur a permis de réaliser cette prouesse et que nous hésitons à aller chercher. Raison pour laquelle je me dis, mais ou alors ils ont juste confectionné ces résultats pour contenter le monde. Mais malheureusement, du moment que l'opposition reconnaît la défaite, je me dis, la partie
d'en face,
voilà, reconnaît qui est au pouvoir, reconnaît la défaite, je me dis, mais je me retiens à parler de malédiction pour notre pays parce que je veux croire que on n'est pas aveugle et qu'on voit, ou alors on n'est pas aveugle mais on ne veut pas voir. Mais c'est quand même triste. Et hier c'était le Bénin, aujourd'hui c'est le Ghana. C'est nous seuls qui restons. Notre caricaturiste Donald avait dépeint cette image en disant que au Bénin il y a l'alternance, au Ghana il y a l'alternance, au Burkina il y a l'alternance, dans la mer il y a l'alternance, mais au Togo il y a la maintenance.
D'accord, ça se comprend. quand on prend déjà ces élections qui ont eu lieu le samedi, en moins de 24 heures on a les résultats. Et les résultats, et c'est vrai, avec les élections, on a compris, il y a eu quelques incidents, mais incidents mineurs, bien sûr, au nom du pays, mais cela n'a pas entaché quand même la crédibilité de ces élections. Et finalement, on a les résultats et le camp adverse, peut-être quand on va parler même le camp au pouvoir, bien sûr, qui n'a pas pu accéder au pouvoir, et c'est l'opposition qui accède au pouvoir, le camp adverse qui félicite même l'opposition pour cette prouesse. Alors, est-ce que ce n'est pas beau à voir?
Hier, j'étais vraiment heureux pour mes frères et sœurs ghanéens. Ça fait aimer des pays. On était vraiment heureux avec quelques amis ghanéens et c'était, comme tu le dis, agréable à apprécier, justement. Et comme tu le dis d'ailleurs, c'est le parti au pouvoir, c'est-à-dire c'est le candidat du pouvoir qui a les résultats en primeur et qui annonce avoir perdu. Comme quoi, on peut organiser des élections et perdre. Et on a dit qu'en Afrique, il est dit qu'on ne peut pas organiser des élections pour les perdre. Mais voilà, il paraît que c'est au Ghana que ça a été dit. Mais voilà, au Ghana, on organise les élections.
Et au Sénégal aussi, on l'a vu. Mais avec
Macky Sall. Au Sénégal, c'est une tradition. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je me dis que nous sommes en Afrique, justement. Nous, Africains, si nous voulons vraiment du bien pour nous-mêmes et pour nos pays, pour notre continent, nous pouvons véritablement changer les choses. Il n'y a pas de malédiction qui tienne. Il y a juste un peu de foi, un manque de volonté de bien faire les choses et de les faire dans les règles de l'art. Et de le faire dans l'intérêt général, de l'intérêt de monsieur tout le monde. C'est lorsque les intérêts individuels priment sur les intérêts généraux qu'on arrive à voir des situations où des gens, ou des situations que nous déplorons sur le continent. Mais lorsque
les gens travaillent pour l'amélioration et le développement de leur pays. Les gens tiennent à maintenir la paix et la sécurité de leur pays. Que les gens tiennent à ce que leur pays avance et qu'ils pensent aux générations à venir. Je pense justement que les choses se font dans les règles de l'art et que, oui, aujourd'hui, les gens ont perdu. Le parti, le NDC a perdu les élections. John Dramani Mahama, qui les avait perdus, aujourd'hui gagne. Un perdant d'hier qui gagne aujourd'hui. Mais les gagnants d'hier, aujourd'hui, ont perdu. Donc, c'est le jeu de la démocratie, c'est le jeu même de la nature. Si nous voulons, justement, nous pouvons pratiquer ce jeu-là de la démocratie qui est le jeu de la nature partout. Parce que la nature même, c'est l'alternance. Actuellement, nous sommes dans l'harmattan. On venait de passer la mousson. Après, il y aura d'autres saisons chez d'autres personnes. Les printemps, les automnes, les hivers et tout ça. Donc, la nature, c'est l'alternance. C'est le changement. La succession des temps, les perdants peuvent gagner, les gagnants peuvent perdre.
Quand c'est transparent.
Et c'est la vie qui avance et c'est la nature qui est
quand
qui
c'est
qui est
transparent,
normal.
Ça alterne.
Voilà, Jacques, est-ce que vous avez compris le retour de John Dramani Mahama au pouvoir? Et puisque déjà, quand on prend Nanado avec son défunt même qui ont été totalement balayés du pouvoir, est-ce que ça veut dire que les Ghanéens en ont marre de ce système et que finalement, ils ont préféré que l'opposition revienne au pouvoir?
Pascal, je voudrais d'abord féliciter l'élection de John, parce qu'il faut reconnaître que John Mahamat, c'est un monsieur qu'on connaît très bien, parce qu'il est un diacre de l'Église des Assemblées de Dieu au Ghana. Donc, c'est un monsieur ancré tellement dans la foi. Et vous voyez ce qui s'est passé avec le sortant. Vous avez vu la crise économique que le Ghana a traversée. Donc, cet indicateur démontrait déjà avec les sondages et tout que le candidat de Nana partait pour perdant. Ça, il faut le reconnaître. Et pour tous ceux qui ont eu la chance de suivre les débats et la campagne, les gens ont compris que les dés étaient déjà pipés pour l'autre et que John allait passer. Et c'est ce qui s'est passé. Et n'oubliez pas également le renforcement des institutions au Ghana. Il y a ça. Et il y a également l'alternance pacifique qui a eu lieu avec Geiger Rollins, qui a préparé tout et qui disait même que si un démon venait
à prendre le pouvoir.
Il ne pourra rien faire par rapport à la Constitution. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, c'est des choses que les autres ont déjà bâties. Et pour ce qui, mon frère Gosson disait tout à l'heure que c'est comme une malédiction pour le Togo, pas du tout une malédiction. Vous savez, la vie, c'est comme l'échelle que nous sommes en train de prendre pour progresser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'échelle, nous allons abandonner l'échelle et pouvoir se battre seul. Donc c'est pour vous dire que rien n'est perdu pour le Togo. Le Togo ne constitue pas effectivement l'enfer pour nous, pas du tout. Je crois qu'à un moment donné, ça va venir. Vous voyez, donc pour
Jacques, est-ce que nous n'avons pas pris assez de temps pour prendre les paliers de l'échelle, de telle enseigne qu'il faut aujourd'hui abandonner l'échelle et aussi aller vers l'alternance?
Non, vous savez, dans une course, il y en a qui vont vite. Il y en a qui vont également lentement.
Ça dépend de la volonté.
Mais tout ça, là, ça s'appelle la course. Donc, ce que je me dis, le Togo, comme je l'ai dit une fois encore, le Togo ne constitue pas l'enfer. Le Togo ne constitue pas également une malédiction pour nous. Quel qu'en soit Alpha, quelqu'un a dit, quelle qu'en soit la durée de la nuit ou bien quoi.
Quelle que soit la durée de la nuit,
le jour vient certainement.
Donc, ça viendra. Donc, attendons. Je crois que les uns les autres, peut-être, ne pourront pas comprendre. Mais, vous savez, pour ceux qui sont des chrétiens, la parole de Dieu dit, je passe sous le couvert d'un pasteur, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
D'accord. Voilà. Ok. Un mot, 10 secondes.
Ce que je veux donner, c'est que le pouvoir en place au Togo prenne exemple sur celui du Ghana, de même que l'opposition. Je veux dire par là, il faut que le pouvoir ose faire confiance à l'opposition. Comme quoi, si demain l'opposition venait à accéder au pouvoir, ce ne serait pas une chasse aux sorcières. Et sur ce point, l'opposition aussi doit donner de la garantie, tout comme le pouvoir aussi doit pouvoir lâcher du lest. Et pour lâcher du lest, il suffit que, quand les gens vont aux urnes, que le dépouillement se fasse en toute transparence.
D'accord. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent aussi à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. C'est sur le 90 86 35 35 91 36 63 115 et également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 et notre numéro WhatsApp aussi est là. Vous pouvez réagir sur ce numéro 90 45 78 57. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
C'est Monsieur Koufi.
Oui, c'est Monsieur Koufi.
Allez-y.
Je veux rebondir sur ce que vient de dire votre collègue à propos de Dieu, voilà, voilà. Nous avons des tests. Et si nous avons des tests, il suffit de respecter ces tests. Et que le Togo aussi va évoluer, va connaître la démocratie, l'alternance, comme dans les autres pays. Dieu ne viendra rien faire pour nous. On ne va pas tout le temps rester dans l'immobilisme et dire que Dieu va faire ci, Dieu va faire ça. Jésus est né en Israël. Hein. Les prophètes, tout ce que nous lisons dans la Bible, c'est en Israël. Mais aujourd'hui, je ne veux même pas un tenant politique israélien dire Jésus fera ça, Dieu viendra nous faire ceci, cela. Non! Nous devons nous départir de ces histoires-là. Finalement, on fait ici comme si le début, là, lorsque les missionnaires étaient venus, tout ce qu'ils ont fait, c'est ça qui se passe aujourd'hui toujours au Togo ici. Laissons la force de Dieu de côté et respectons les tests et agissons avec éthique et on sera comme les autres.
D'accord.
Merci.
Merci, Monsieur Koufi, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
Nyamavo.
Allez-y.
Oui, je m'intéresse aux élections au Ghana.
Oui.
Un journaliste l'a dit là-bas, c'est comme nous, au Togo, on ne réfléchit pas. Vous voyez un peu, Djakouti l'a dit. Parce que vous voyez, avec la chute de l'économie là-bas, ça dessinait que le pouvoir va chuter. Mais au Togo, on a la croissance économique qui rime avec la croissance de la pauvreté. Mais on gagne à 100%. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? Et regardez comment ça se fait, comme en Amérique, jusqu'au petit matin. On connaît déjà les résultats. Or, au Togo, déjà dans les pays, le petit matin, mais puis encore des jours, nous sommes en train de tirer à la télé. C'est-à-dire qu'on a pour ajuster les chiffres. On prend des semaines pour proclamer les résultats. Donc, ça montre clairement que nous ne pouvons pas faire en France autour. Vous voyez ça? Donc, nous devons réfléchir autrement. Si on pouvait convaincre l'État à organiser des élections pour qu'on nous donne des résultats sortis des urnes et non des cellules et des tenues, là, ça va nous plaire. Sinon, les résultats, c'est pourquoi ils arrêtent, on ne donne pas les tendances. Dans les pays à la démocratie, on donne les tendances. Mais au Togo, on refuse. C'est la cellule, les cellules qui donnent les résultats. Voilà pourquoi on est enrôlé. Quoi qu'on souffre, ça ne regarde pas. Bonne émission.
Merci beaucoup, Monsieur Nyamavo, pour votre intervention. Bonjour le plateau. Félicitations au peuple libre du Ghana qui disent non au pillage des biens de l'État et bon retour à John Mahamat. C'est Léonce depuis de Lyon. Autre auditeur en ligne. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, Monsieur Gado. Comment vous allez?
Ça va très bien.
D'accord, allez-y.
Oui, c'est que mon ami Godson a parlé de malédiction. Je vais lui répondre. Mon ami, parce que quand on était venu à la radio un jour, je lui ai demandé si un pays aime, ça dit, si un pays a une malédiction, comment peut-il savoir? Il n'a pas pu répondre. Justement, c'est qu'il y a une malédiction sur notre pays. Ça, franchement, par exemple, c'est quand les gens sont au pouvoir, et voilà ce qui se passe. Il n'y a pas de développement, rien. Alors que l'alternance est à côté de nous. Merci, bonne journée.
Merci, M. Gado, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse de ce lundi. Allô? Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, M. directeur.
Oui, Papa Sibiti.
Ah, vraiment, monsieur, mon fils est Edidor, mon directeur, je vous salue. Bon, mon fils Jacoti, vous parlez de jeunesse, jeunesse. Nous avons nos valeurs. Mon directeur Isidore, vous avez parlé de votre enfant qui va se...
Non, c'est pas Isidore, Papa Sibiti, c'est plutôt Godson Ketomania.
Ah, c'est lui que j'appelle comme ça. Il n'a qu'à m'excuser. Bon. Nous avons nos valeurs, comme le directeur Pascal l'a dit. On ne peut pas de mettre de ces valeurs. Vous avez parlé de France. À Paris, nous sommes arrivés qui arrive. On est allé dans un coin. J'ai vu une femme. Je suis comme un Africain. J'ai voulu dire non, mais monsieur, il paraissait, vous me faites perdre mes clients. Vous voyez? Donc, les maisons de jeunes, moi j'en veux par rapport au plat des jeunes. Il y a beaucoup de... D'ailleurs, à nos cultures, c'est ça, nos valeurs. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. Allô?
Allô, bonjour, c'est Monsieur Etienne.
Monsieur Etienne, vous nous appelez de quel quartier?
Kakavelli.
Kakavelli, allez-y.
C'est par rapport aux élections au Ghana.
Oui, allez-y.
J'aimerais juste demander à mon gouvernement de prendre l'exemple du Ghana. Et que l'opposition aussi donne garantie au pouvoir qu'après les élections, si l'opposition a gagné, il n'y aura pas la chasse aux sorcières. Maintenant, dans la 5e République, paraît-il que nous n'avons plus le droit de voter. Est-ce que le peuple est vraiment consulté? Nous saignons. Moi, je saigne si je ne peux pas au moins exprimer ma citoyenneté par le vote. Que le gouvernement revoie ça. Pour qu'on puisse continuer à voter, pour qu'il y ait l'alternance. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Tse, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Je reviens. Ah, est-ce que réellement, à tout âme, nous avons besoin d'un sénateur? Hein? Avec ça, bon, c'est le gouvernement, nous ne pouvons rien. Sinon, il y a beaucoup de choses à faire. Le chômage, la paix, tout ça. Notre président de la République, il faut qu'il revoie la situation. Pourquoi on la politise? Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti, 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, c'est M. Kodjo depuis Thévié.
M. Kodjo, vous nous appelez depuis Thévié, allez-y.
Oui. C'est tout juste pour revenir sur l'élection au Ghana.
Oui.
Vous voyez, si vous voyez le Ghana et le Togo, il n'y a pas de frontières. Et le Ghana fait pratiquement trois fois le Togo. Le Bénin qui fait deux fois le Togo. Mais vous voyez ce qui vient de se passer au Ghana. Mais dans le monde entier, sur les réseaux sociaux, c'est le Ghana en cuit aujourd'hui. Pourquoi chez nous, un jour, le chef de l'État ne peut pas se lever pour dire, le chef de l'État, c'est un frère à moi, je vous le dis. Elle dit que, bon, voilà, mes frères, ce qui se passe, non. Il faut voir les deux côtés. Au Burkina Faso, au Bénin et au Ghana, nous allons copier les actes comme nous avons l'habitude de le faire. Et on change tout, et je vous assure que 2, 3, 5 ans, ça va marcher pour nous ici. Je lance cet appel à M. Dakoti qui essaie de laver un peu l'assiette. Je le comprends très bien. C'est quelqu'un qui a de Congolo. Mais par lui aussi, il peut aller dire quelque chose et ça va donner un plus. Félicitations aux Ghanéens et félicitations aux Togolais aussi.
D'accord. Merci beaucoup, M. Kodzo. Depuis Thévié, nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Mais c'est monsieur Gabriel, je voulais vous demander, vous les journalistes, de demander à la CENI de s'impliquer dans les élections. Parce que ça ne gâte rien, c'est la transparence que nous voulons. Les journalistes doivent s'impliquer dans les élections et nous préparer les résultats comme le Ghana. Merci.
Merci, Monsieur Gado, pour votre intervention. Je pense que vous êtes le dernier auditeur pour le compte. Alors, de cette émission, je lis rapidement cette intervention d'un auditeur qui nous suit depuis Accra, au Ghana. Hervé, c'est son nom. Hervé qui dit « Bonjour Pascal et bonne émission. La célérité des résultats au Ghana liée au déploiement massif des journalistes sur tout le territoire qui annonce les tendances en direct. » Au pays d'Enyasimbe, les journalistes n'ont aucun rôle. La RAC intimide et refuse l'annonce des tendances. Tout ceci pour entretenir la fraude. Les médias ont un rôle important dans la transparence électorale. C'est signé Hervé depuis Accra qui nous suit bien sûr au Ghana. Alors, nous revenons en plateau, chers confrères, pour vous faire un dernier tour de table et clôturer l'émission de ce lundi. Jacques ?
Bon, je ne sais pas ce que l'auditeur de Kévi a dit.
Il dit que vous pouvez aller parler là-bas.
Parler où?
Hein? Les choses changent. Les choses. Parler là-bas.
Comme si s'il y avait la baguette.
Ah, d'accord.
Comme tu es Djakouti, il pensait que c'est le vieux. Donc il dit d'aller parler là-bas. Oui.
Au Ghana.
Non, pas au Ghana. Là-bas,
la grande maison.
Oh. Oh.
Donc, c'était ça sa réaction. Voilà. Donc, rapidement, Gosson.
Non, je voulais pour ma note. En tout cas, merci pour l'auditeur de Kévié. Je crois que peut-être que c'est une prophétie. On priera pour que cela se réalise. Je voulais vraiment, par rapport à la libération des deux militaires burkinabés, c'est une bonne chose que le chef de l'État, l'acte qu'il a posé, et c'est vraiment une très bonne chose. Ce que nous allons demander au président.
Ce sont des Ivoiriens qui ont été libérés plutôt.
Voilà, et vice versa. Oui. Il y a également des qui ont été libérés.
Voilà.
Il est important que le président de la République puisse également regarder du côté de nos compatriotes ici au Togo qui sont également en souffrance par rapport à la loi pour demander également leur libération. C'est important. Godson a encore ajouté ce matin le cas de ce monsieur qu'on a arrêté avec l'histoire de
Yango.
Je crois que vraiment il faudrait que le chef de l'État puisse également revoir ce côté-là. Nous sommes en fin d'année pour que ces compatriotes qui sont en souffrance avec la loi recouvrent leur liberté avant la fin de l'année.
D'accord, merci beaucoup Jacques. Oui, Didier ?
Non, je pense que les auditeurs sont revenus justement sur les élections, les suites des élections au Ghana. Ça fait rêver et donc malheureusement les gens n'aiment pas qu'on dise des choses comme ça, mais continuons de rêver également pour notre pays. Les pères fondateurs ont estimé que le Togo devrait être l'or de l'humanité. Continuons par rêver, nous aussi, le Togo en or de l'humanité, et travaillons-y. Si Dieu veut, un jour, nous aussi, on va célébrer des alternances et des changements comme ça pour que notre pays connaisse une évolution naturelle comme les uns les autres le souhaitent.
D'accord. Gosson ?
Oui, c'est moi qui ai parlé tout à l'heure de confiance mutuelle entre l'opposition et le parti au pouvoir. Cette confiance a commencé à exister depuis. Ou alors, pas cette confiance, mais il y a la preuve de bonne foi de certains membres de l'opposition. Il suffit qu'on visite certaines mairies pour voir que à la tête de ces mairies, c'est des gens de l'opposition qui y trônent. Et pourtant, ces mairies continuent de fonctionner. Ces mairies n'ont jamais appelé à une révolution et autres. Donc, c'est déjà assez parce qu'on ne va pas quand même brandir chaque fois cette crainte de comment l'opposition va gérer l'après le parti au pouvoir pour refuser sciemment de lui concéder de lui accorder le bénéfice du doute. Il serait temps que on fasse le pas et que demain ce ne soit plus seulement le Ghana, le Burkina ou le Bénin, mais qu'on parle aussi du Togo et en bien.
D'accord. Merci beaucoup, Gosson Kitomania, pour votre participation à cette émission. Jacques Diakouti, merci d'être passé dans cette émission. Didier Assoba, merci à toi d'avoir contribué à cette émission avec vos réflexions. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Vous qui nous avez appelés pour contribuer aussi, hein, apporter votre contribution à cette émission à travers vos réflexions. Merci pour ce devoir civique que nous faisons tous ensemble. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lussou. Je vous retrouve demain mardi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, prenez soin de vous. Au revoir.